mode d'emploi.
Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Aujourd'hui, nouveau volet de l'émission Mode d'emploi, animé par l'équipe de la 4e dimension, comme tous les 4e vendredis du mois. Avec pour présenter l'émission Mathieu et Laurent et Claude à la technique. L'émission de ce soir est consacrée au multilatéralisme dans les relations internationales. Alors le multilatéralisme, il s'agit d'un mode d'organisation des relations interétatiques qui se traduit par la coopération de 3 États au moins dans le but d'instaurer des règles communes de coexistence et de coopération. Le multilatéralisme correspond à un cadre de dialogue comprenant toutes les parties prenantes, système qui doit permettre à tous de s'accorder sur une position acceptable. Il s'oppose bien entendu à l'unilatéralisme et au bilatéralisme. Bilatéralisme, on est 2, multilatéralisme, on est au moins 3. Système de gouvernance où l'État le plus puissant fait régner ses intérêts nationaux sans concertation avec les autres nations. Le cadre absolu où le multilatéralisme est le plus étendu, ce sont les institutions internationales, et en particulier le système onusien et les grandes négociations thématiques, par exemple sur le nucléaire ou l'environnement, qui elles-mêmes dépendent en partie du système onusien. Donc on fait souvent référence à la communauté internationale. Alors déjà, on peut sentir une tension entre deux tendances sur le multilatéralisme. Est-ce que c'est un simple outil de négociation, donc instrumentalisable par les superpuissances, ou bien un cadre préalable à une gouvernance supra-étatique? Va-t-on vers une démocratie mondiale? Donc pour en discuter, nous recevons ce soir deux invités, donc Guillaume Devin, professeur des universités en sciences politiques à Sciences Po, directeur du master et du doctorat en sciences politiques, mention relations internationales. Vous avez publié de nombreux ouvrages sur ces questions d'organisation internationale et de gouvernance. Et puis, nous recevons au téléphone Antoine Madelin, qui est directeur du plaidoyer international à la Fédération internationale des droits de l'homme, la FIDH. Donc voilà, vous ne pouvez pas appeler l'émission puisque nous avons Antoine Madelin qui sera sur la ligne, mais vous pourrez la retrouver ensuite sur le site Mode d'emploi, donc mode-d-emploi.net, ou nous réécouter mercredi prochain à 7h du matin.
Alors, le multilatéralisme, il faut qu'on s'entraîne à le dire, parce qu'on va le répéter plusieurs fois dans l'émission, on a tendance à avoir la langue qui fourche. Donc, l'histoire des relations internationales, sur le temps long, n'est pas forcément marquée par le multilatéralisme, plutôt sur l'histoire à long terme, plutôt l'habitude de voir plutôt l'unilatéralisme, l'usage de la force, la souveraineté des États, notamment des plus puissants. Guillaume Devin, est-ce que vous pouvez nous raconter, nous faire un petit historique du multilatéralisme? À quelle époque on peut situer l'avènement de cette forme de gouvernance mondiale?
Bon, d'abord, bonsoir. Je crois qu'il faut distinguer multilatéral et multilatéralisme. La concertation multilatérale, comme vous l'avez très bien expliqué, c'est-à-dire à plus de trois parties, trois ou plus de trois parties, c'est une concertation qui est aussi ancienne que l'histoire des relations internationales. Oui, des conférences avec plusieurs cités, États, empires, ça a toujours existé. Le multilatéralisme, c'est quelque chose de plus. Ce n'est pas simplement une technique de négociation à plusieurs, c'est également une politique qui est tournée vers la recherche de solutions communes. Le multilatéralisme, c'est l'idée que, en travaillant à plusieurs, on peut dégager des solutions qui sont profitables et durables. Alors, le multilatéralisme, il se développe en tant que politique dans la deuxième moitié du XIXe siècle, à partir du moment où commence à se créer un certain nombre d'organisations internationales, d'abord sectorielles, sur le télégraphe, les premiers, la poste, la santé, à partir du moment où le monde, et notamment le monde européen, est en train de se resserrer avec le développement de l'industrialisation. Cette concertation, elle va connaître plusieurs coups d'accélérateur et à chaque fois, je dirais, des coups d'accélérateur qui sont liés à des événements souvent dramatiques. Le premier coup d'accélérateur, c'est la Première Guerre mondiale, avec comme conséquence la création de la première organisation politique à vocation universelle. Donc là, on n'est plus dans le secteur, hein, on est dans une dimension globale, globale qui est essentiellement à l'époque européenne, mais qui est perçue comme globale.
Occidentale, en tout cas.
Hein, voilà. C'est la Société des Nations, donc, création de la Société des Nations, qui va soulever d'immenses espoirs, mais qui va se retrouver, j'ai un problème. Oui, je crois qu'il y a un petit problème. Bon, enfin, en tout cas,
sinon, on va changer de. Oui. On va peut-être changer de micro, sinon.
C'est bon ? Oui, c'est bon. Donc, comme vous le savez, la Société des Nations ne va pas pouvoir vraiment s'acquitter totalement de sa mission. Elle va même être incapable d'endiguer la montée des régimes autoritaires, totalitaires et fascistes, et elle va être incapable de freiner la course à la guerre. Après la Seconde Guerre mondiale, deuxième épreuve tragique, sont créées les Nations Unies, plutôt l'Organisation des Nations Unies, qui est une organisation qui va conquérir progressivement l'universalité, puisque aujourd'hui l'Organisation des Nations Unies comprend la quasi-totalité des États ainsi constitués de par le monde, c'est-à-dire 193 États membres.
Quels sont les États justement qui n'en font pas partie à l'heure actuelle? Il en reste
pratiquement pas d'États. Il y a des territoires autonomes qui n'ont pas encore le statut d'État et qui souhaiteraient être reconnus. Mais les États reconnus internationalement sont tous membres des Nations Unies et
la Corée du Nord, par exemple.
Oui, bien sûr. La Corée du Nord a été admise aux Nations Unies en 1991 en même temps que la Corée du Sud. Vous avez des États qui ont des statuts un peu particuliers. Je pense par exemple au Vatican, qui a un statut d'observateur permanent. Hein. Et puis, récemment, vous le savez, l'autorité palestinienne qui a obtenu également un statut d'observateur permanent. Alors, les Nations Unies, c'est pas vraiment un système parce que l'ensemble est assez éclaté, mais c'est une famille relativement importante. D'abord, au centre de la famille, des institutions principales, le Conseil de sécurité, qui a la compétence exclusive en ce qui concerne le maintien de la paix et de la sécurité internationale, l'Assemblée générale, qui réunit tous les États membres sur la base de un État, une voix, ce qui n'est pas le cas du Conseil de sécurité, qui comprend 15 membres, dont 5 membres permanents, dotés d'un droit de veto, et 10 membres non permanents qui sont élus tous les 2 ans.
Alors ce droit de veto, du coup, peut par définition bloquer la prise de décision.
Alors, à tout moment, lorsque des décisions doivent être prises par le Conseil de sécurité, si l'un des membres permanents, dont je rappelle, hein, pour les auditeurs, les membres permanents, c'est la France, le Royaume-Uni, la Chine, la Russie et les États-Unis. Alors, à tout moment, si l'un de ses membres oppose son droit de veto, ou plus exactement, ne s'associe pas en s'opposant à une décision, la décision ne peut pas être prise.
Sans limitation d'usage du droit de veto.
Sans limitation d'usage du droit de veto, je ne sais pas si on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est une proposition française relativement récente, à défaut de supprimer le droit de veto, de proposer, c'était une idée du précédent secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, à défaut donc de se débarrasser ou de supprimer le droit de veto, l'idée est d'encadrer, serait d'encadrer le droit de veto et de faire en sorte que le droit de veto ne puisse pas être opposé lorsque, en particulier, on fait face à des crimes internationaux graves, crimes de masse, génocide, crimes contre l'humanité.
Et alors, du coup, effectivement, le multilatéralisme n'est pas un égalitarisme.
Le multilatéralisme, il est hiérarchique. La constitution, la structure des Nations Unies le montre. Le Conseil de sécurité n'est pas un organe égalitaire. L'Assemblée générale l'est. Mais c'est le Conseil de sécurité qui a les véritables pouvoirs. L'Assemblée générale ne peut faire que des propositions. Elle travaille et fait des choses plus intéressantes qu'on ne le dit, mais seulement à titre de recommandation. De consultation, ces résolutions ne sont pas obligatoires.
Alors, quels sont les thèmes traités, puisque ces organisations sont créées, vous dites, sur la base de la Société des Nations, donc pour un maintien de la paix entre les différentes nations. Aujourd'hui, que recouvre le multilatéralisme ?
L'Organisation des Nations Unies, l'Assemblée générale, c'est l'article 10 de la charte, a une compétence générale. L'Assemblée générale peut parler de tout, absolument de tout, de la santé, du climat, de la paix, etc., etc. Mais en cas de conflit, si le Conseil de sécurité prend en charge un certain nombre de dossiers, il dépossède l'Assemblée générale et c'est le Conseil de sécurité qui a la compétence pour se prononcer sur les affaires qu'il a décidé de saisir et sur lesquelles il a décidé de délibérer et éventuellement de décider s'il parvient à une décision, c'est-à-dire qu'il y a unanimité au moins des 5 membres permanents.
Et autour de ce système d'Assemblée générale et de Conseil de sécurité, il y a tout un tas de satellites d'organisations liées à l'ONU.
Il y a d'autres organisations principales, bon, sans rentrer dans le détail, une Cour de justice, une Cour internationale de justice qui se trouve à La Haye, et un organisme important qui dépend partiellement de l'Assemblée générale, mais qui avait pour fonction initialement de coordonner la gouvernance économique et sociale dans le monde, c'est le Conseil économique et social des Nations Unies qu'on appelle l'ECOSOC.
D'accord.
Et puis, vous avez le secrétaire général des Nations Unies, qui est pour l'instant un homme, jusqu'à maintenant, mais qui est une personne fort importante parce que c'est le chef de l'administration, mais c'est aussi une personne qui peut avoir un rôle politique en attirant l'attention du Conseil de sécurité sur tel ou tel dossier particulièrement délicat.
Alors peut-être on va faire entrer dans cette discussion Antoine Madelin. Bonsoir. Et alors vous travaillez pour la Fédération internationale des droits de l'homme, c'est ça ?
Exactement, oui.
La première question à votre endroit, c'est peut-être à quel moment finalement la société civile est rentrée dans le multilatéralisme.
Alors, c'est difficile de le quantifier ou de voir exactement à quel moment cela se fait. Il y a eu, au fait, depuis très rapidement, au moment de la création des Nations Unies, beaucoup de représentants de la société civile ont dès le début, ou en tout cas s'agissant des organisations de défense des droits de l'homme, participé à au développement du système international de protection des droits de l'homme à l'intérieur des Nations Unies.
D'accord.
Et donc, pendant beaucoup d'années, par exemple, la France, quand elle siégeait aux Nations Unies, a ensuite aussi siégé à la Commission des droits de l'homme, qui est ensuite devenue le Conseil des droits de l'homme, a eu dans ses délégations des représentants issus de la société civile. C'est ainsi que on a vu des grandes figures de la société civile, comme par exemple René Cassin, qui fut un grand défenseur des droits de l'homme, qui a participé à la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Vous avez ensuite eu pour une institution spécifique, la Commission des droits de l'homme, une place qui a été faite pour que des organisations de la société civile participent au débat. Et ainsi, dans un cadre où les échanges étaient essentiellement entre États, le Conseil économique et social, dont a parlé Guillaume Devin, a, dans sa mise en place, organisé le fait que des représentants d'organisations, d'associations, initialement des organisations internationales, et puis après, dans les années 90, des associations, y compris de différents pays, puissent participer au débat. Ce qui veut dire que quand on écoute et quand on suit les échanges, les États peuvent prendre la parole et à la suite, la société civile peut également prendre la parole pour alimenter les discussions.
Voilà, c'est pas un simple statut d'observateur, de suivi, il y a vraiment un droit de parole aux organisations les plus reconnues.
Voilà, exactement. Et donc pour ça, il y a tout un processus d'accréditation auprès des Nations Unies et des associations dont on estime qu'elles suivent et poursuivent les objectifs des Nations Unies peuvent obtenir ce statut et ainsi contribuer au débat. Alors c'est une position d'observateur puisqu'ils peuvent prendre la parole dans les débats mais ils ne participent pas au vote sur les résolutions lesquelles restent entre les mains des États.
D'accord, très bien.
Mais aujourd'hui, on voit, au-delà d'une participation formelle, il y a aussi tout le travail informel qui est fait.
D'accord.
Et très largement, les associations, notamment, que ce soit les associations de défense des droits de l'homme comme les nôtres, ou les associations humanitaires, ou des associations qui travaillent, des agences dans des objectifs de développement, ont un rôle très important dans l'organisation du travail des Nations Unies, puisqu'elles alimentent ces différentes institutions de leurs analyses, de leurs
expertise,
enquêtes, analyses de terrain, pour permettre de contribuer au travail de ces différentes institutions et pour essayer d'influer leurs décisions.
D'accord.
En gros, c'est du lobbying, quoi.
Oui, oui, c'est ça. Ok, très bien. Donc, on va faire une première pause musicale. Donc, on a effectivement bien cerné la genèse, on va dire, du multilatéralisme et son mode de fonctionnement. Et on traitera dans la deuxième partie la situation actuelle, finalement, de ce multilatéralisme. À tout de suite.
Blowing through the air, such a natural mist.
à tous et à toutes. Vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Nous venons d'écouter Bob Marley avec Natural Mystic. L'émission de ce soir est consacrée au multilatéralisme. Mathieu, une...
Multilatéralisme dans les relations internationales. On a dressé le tableau un peu du système onusien et de l'avènement du multilatéralisme dans les relations internationales dans la première partie. Est-ce que c'est pas un tableau un peu flatteur par rapport à la situation actuelle et aussi aux situations de blocage qu'on peut rencontrer sur certains sujets entre les États? Guillaume Devin.
Non, enfin, c'est pas un tableau flatteur, c'est un tableau relativement objectif. L'histoire du multilatéralisme, on n'a pas eu le temps de faire l'histoire dans le détail, mais c'est pas un long fleuve tranquille, hein. Je l'ai dit, la Société des Nations s'est effondrée, incapable d'enrayer la montée des périls autoritaires et de la guerre. Les Nations Unies, on dit aujourd'hui, il y a une crise du multilatéralisme. Bon, faut s'entendre sur le terme, on est dans une mauvaise passe, ça c'est indéniable. Mais il faut pas oublier tout de même que pendant toute la période de la guerre froide, le Conseil de sécurité a été totalement bloqué. Et je vous mettrai au défi de me citer quelques grandes avancées du système onusien, comme vous l'avez appelé tout à l'heure, pendant la période de la guerre froide. Hein. On se regardait surtout en chien de faïence. L'Assemblée générale était divisée entre le bloc de l'Est, le bloc de l'Ouest et au milieu le bloc des non-alignés qui faisait un jeu de bascule en fonction des thèmes sur lesquels on discutait. Et le Conseil de sécurité était complètement bloqué. Donc c'était pas une période extraordinaire.
Sur tout sujet, même
sur tous les sujets un peu plus lointains. Il y a eu quelques avancées, par exemple, on cite souvent la convention sur le droit de la mer, etc. Enfin, c'est tout de même très limité,
assez restreint.
Très limité. Alors, il y a eu une parenthèse enchantée. C'est la parenthèse des années 90, parce que avec
l'effondrement
le bloc de l'Est, la chute du mur de Berlin, etc., la fin du monde bipolaire, on s'est pris à imaginer que la voie radieuse de la coopération allait se dérouler telle précisément et enfin comme un long fleuve tranquille.
Et alors, quelles ont été les avancées de ces années 90?
Il y a eu des avancées relativement importantes. Il y a eu des avancées relativement importantes en termes de conventions internationales. C'est tout de même au terme de ces années que on a pu adopter enfin une convention sur la Cour pénale internationale, un certain nombre de textes sur le désarmement, les bombes, les mines à antipersonnel, les bombes à sous-munitions, etc. Et il y a eu pas mal de choses, et puis aussi beaucoup d'interventionnisme au nom des opérations de maintien de paix.
Fameux casque bleu, il n'y a pas eu beaucoup d'opérations avant les années.
Alors, il y a eu très peu d'opérations. Alors ça, c'est une histoire qui est assez complexe à raconter. En fait, les casques bleus, les opérations de paix ne sont pas prévues par la Charte des Nations Unies. C'est parce que le système de la sécurité collective prévu par la Charte des Nations Unies n'a pas fonctionné que l'on a trouvé ou on a inventé une solution ad hoc qui est cette solution de soldats de la paix, hein, qui au départ devait faire le tampon entre les belligérants. Et puis progressivement, ces opérations de maintien de la paix sont devenues, entre guillemets, un peu plus ingérantes, imposant la paix en fonction des mandats du Conseil de sécurité, et on a développé quand même cet outil de manière assez spectaculaire jusqu'à aujourd'hui.
C'est quand même un progrès impressionnant si on regarde l'histoire à long terme.
Alors c'est un progrès impressionnant.
Internationale, même si elle est soumise à des influences de tel ou tel pays, à des négociations sur tel pays fournit tel matériel, combien d'hommes et tout, mais c'est quand même impressionnant que...
Alors, c'est effectivement une avancée intéressante. Maintenant, attention de ne pas trop enjoliver cette réalité. Beaucoup d'opérations de paix n'ont pas donné grand-chose. Certaines se sont révélées même quelquefois contre-productives. Parfois, des soldats de la paix se sont retirés à un mauvais moment. L'exemple du génocide au Rwanda en est l'illustration la plus tragique. Il y a eu également des avancées, mais des avancées qui étaient assez mal maîtrisées. Néanmoins, c'est un outil qui n'existait pas et qui existe aujourd'hui. Pour donner une idée à vos auditeurs, bon, il y a environ 100 000 personnels, hein, hommes, femmes...
À l'ONU, dans les instances onusiennes.
Non, 100 000 personnels qui sont mobilisés dans des opérations de maintien de la paix. Si vous voulez, mais c'est pas simplement des casques bleus, ça peut être aussi des policiers, etc. Ouais. Donc, il y a plus de 100 000 personnes dans une quinzaine d'opérations de paix de par le monde.
Ouais, c'est
donc c'est tout de même. Et alors on dit bah oui mais c'est pas grand chose. D'abord c'est quand même ça fait finalement une très grande armée. Et d'autre part ce sont des interventions dans des lieux où personne ne veut aller. Le Sud-Soudan, le Soudan, la RDC, la Centrafrique. Ça c'est une avancée importante. Alors à partir de la moitié des années 2000, il y a eu des attitudes de réaction et on peut dire que nous vivons une période de régression. En ce qui concerne la coopération multilatérale, mais là je vais peut-être m'arrêter, je reprendrai la parole pour que Antoine Madeleine, qui est sur le terrain beaucoup plus que moi, puisse donner des éléments d'explication sur ce moment régressif.
Oui,
c'est clair que nous vivons un moment régressif.
Déjà, effectivement, par rapport à ce que vous dites sur les 100 000 personnes et ces nombreuses opérations de maintien de la paix, peut-être. Quel est le pendant du suivi de ces interventions par les ONG comme la FIDH, et comment suivez-vous toutes ces interventions multilatérales?
C'est toujours compliqué parce que finalement les opérations de maintien de la paix sont essentiellement une présence neutre militaire au milieu de zones de conflit. Et la manière avec laquelle on étudie leur intervention sur le terrain est souvent qu'ils sont là pour s'assurer pour surveiller que un processus de paix soit respecté, plutôt que pour s'engager dans du conflit dur, entre guillemets. Leur fonction, d'ailleurs c'est du maintien de la paix, ce sont des opérations de maintien de la paix, et essentiellement s'assurer que un arrangement politique a été sera respecté, plutôt que d'arriver à résoudre des conflits. Et la résolution des conflits, c'est là qu'on voit que qui relève du mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est là que depuis plusieurs années on constate en tout cas un blocage face à une aggravation d'un certain nombre de conflits dans le monde. On pense notamment ces dernières années au conflit en Syrie. On a vu aussi depuis 4 ans maintenant le conflit au Yémen. On peut aussi penser à tout l'historique du conflit israélo-palestinien qui aujourd'hui est loin d'être résolu, et la situation continue de s'empirer sur le terrain.
Situations sur lesquelles il n'y a pas d'accord multilatéral, quoi.
Précisément, et du fait que un certain nombre, 5 États puissent utiliser un droit de veto, celui-ci est employé de la part de certains États pour bloquer un certain nombre de résolutions qui sont proposées sur la table. Alors, pour la Russie, pour la Syrie, ça a été essentiellement la Russie, mais parfois alliée avec la Chine, qui ont bloqué un certain nombre de résolutions. Le Yémen, la résolution qui a été adoptée était très en faveur d'une des parties au conflit, qui est la coalition menée par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Pour la situation dans les territoires palestiniens occupés, ce sont les Américains qui, depuis le début du conflit, en tout cas, ont imposé plus d'une cinquantaine de veto en réponse pour bloquer les réponses du Conseil de sécurité.
Mais ce qui est intéressant, c'est que pour autant, en tout cas, au Yémen, sous une forme un peu plus discrète, mais un peu plus facilement observable en Syrie, les pays qui sont Conseil de sécurité donc bloquent la décision collective, mais pour autant il y a une intervention de ces pays-là sur place et pas seulement par la voie diplomatique.
Alors c'est toute la beauté de ces mécanismes, si on peut le dire comme ça, mais en effet où les membres permanents du Conseil de sécurité sont les principaux pourvoyeurs d'armes dans le monde. Et donc quand on regarde le conflit au Yémen, qui oppose donc une coalition...
Justement, ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu, c'est que le Yémen n'est pas forcément le conflit le plus traité dans les médias français. Quelles sont les forces en présence officiellement et officieusement
Donc c'est un conflit qui oppose... deux parties du Yémen, en tout cas deux gouvernements distincts du Yémen. L'un est soutenu par une coalition d'États arabes menée par l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et une quinzaine d'autres États de la région. Et l'autre, qui est issue d'une rébellion Houthi, qui est... en tout cas très largement soutenu par l'Iran. Et puis alors derrière la coalition arabe de l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, il y a les pourvoyeurs d'armes à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis que sont les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, trois membres permanents du Conseil de sécurité. Et donc du coup, vous avez sur un conflit ici qui dont les Nations Unies disent encore aujourd'hui que c'est il cause la plus grande catastrophe humanitaire dans le monde parce que un blocus a été organisé autour du Yémen et qui amène une vraie catastrophe humanitaire dans le pays où avec des situations de famine, des situations d'extrême détresse et de pauvreté en plus des bombardements réguliers. Donc nous avons une situation où beaucoup d'États en tout cas un certain nombre d'États membres du Conseil de sécurité, s'ils ne sont pas partis direct au conflit, alimentent et fournissent des armes pour que un certain nombre de crimes soient commis, ce qui d'ailleurs, à nos yeux, les rend complices d'un certain nombre de ces crimes.
Donc ils pourraient être éventuellement poursuivis un jour, vous pensez, par la CPI ou d'autres instances?
C'est
un de vos chevals de bataille.
C'est un de nos chevals de bataille. En effet, on travaille beaucoup à la mise en évidence de ces crimes, hein, de manière à essayer de s'assurer que on puisse mettre en évidence la responsabilité des parties prenantes directes ou indirectes. On a obtenu, c'est en ça que le système des Nations Unies fonctionne quand même de manière assez intéressante, et ça n'a pas été évoqué complètement, mais Guillaume Devin parlait du développement d'un certain nombre de conventions internationales, et notamment en matière de droits de l'homme. On a parlé de la mise en place de la Cour pénale internationale, mais il y a aussi au sein du Conseil des droits de l'homme des conventions de contrôle de la mise en œuvre des droits de l'homme, et qui fait que les Nations Unies, du coup, peuvent dépêcher des enquêtes sur le terrain qui visent à mettre en évidence les crimes qui ont été commis. Et c'est assez intéressant que les Nations Unies puissent le faire, puisque du coup, c'est comme un organe neutre qui viendra enquêter de manière indépendante au milieu des différentes parties au conflit. Et pour le Yémen, il y a eu en effet une enquête qui a été diligentée par le Conseil des droits de l'homme et qui a pu mettre en évidence l'ampleur des crimes qui sont commis aujourd'hui et les responsabilités des différentes parties prenantes au conflit à cet égard. Donc ce genre d'informations aujourd'hui sont absolument essentielles, puisqu'à défaut de pouvoir amener les plus grands responsables de ces crimes derrière des tribunaux ou derrière la Cour pénale internationale demain ou après-demain, cela peut participer aux discussions qui ont lieu au Conseil de sécurité pour mettre une pression beaucoup plus importante sur une intervention de cet organe en faveur de la résolution du conflit.
D'accord. Donc, on a vraiment sur le multilatéralisme cette avancée quand même considérable sur cette Cour pénale internationale qui finalement permet de maintenir une certaine pression sur les criminels de guerre.
D'une certaine manière, dans leur schizophrénie, entre guillemets, parce que je pense qu'on peut parler de schizophrénie, il s'agit d'États qui, d'une part, essayent de défendre leur souveraineté et donc ne veulent pas une intrusion d'un mécanisme international sur leur propre fonctionnement. Et d'autre part, ils ont aussi, c'est en ça qu'ils sont schizophrènes, développé et soutenu la mise en place de conventions internationales qui vise à réguler le monde, qui vise à réguler nos sociétés, qui vise à développer le droit international et qui, en conséquence, s'est traduit par la mise en place d'un certain nombre de gendarmes internationaux qu'est la Cour pénale internationale, d'une part, ou que sont au sein du Conseil des droits de l'homme des mécanismes d'enquête qui sont diligenté par le Conseil des droits de l'homme au quotidien aujourd'hui. Donc par exemple, on a suivi, puisqu'on parlait de l'Arabie Saoudite, ces derniers mois, l'assassinat du journaliste Khashoggi, qui a ému toute la communauté internationale. Les Nations Unies ont diligenté une enquête indépendante sur ce meurtre et les experts ont pu recueillir des informations sur la responsabilité des autorités saoudiennes dans ce crime, mais pouvoir accéder du coup sur le terrain à des preuves qui sont potentiellement incriminantes pour les auteurs qui ont participé à ce méfait.
Donc parce que ça avait eu lieu en dehors
des... On a des gendarmes ou des enquêteurs qui peuvent permettre de servir de garde-fou, je devrais dire, autour du comportement des différents États.
D'accord. Donc, c'est vrai que c'est une véritable avancée, comme vous dites. C'est vrai qu'on a l'impression que aujourd'hui, finalement, c'est les régimes autocratiques qui ont peur du multilatéralisme. Peut-être Guillaume Devin, un mot là-dessus. C'est vrai qu'on est, on a l'impression que depuis quelques années, les régimes forts se sont renforcés, ou du moins ont accédé à la tête de certains des pays les plus importants, des hommes forts avec des messages nationalistes, et c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils freinent des cas de fer sur ce multilatéralisme pour ne pas eux-mêmes justement être mis en difficulté, y compris d'un point de vue peut-être juridique ou d'un point de vue militaire.
Oui, il y a plusieurs questions dans votre question. D'abord, je voudrais rappeler que le multilatéralisme, c'est un processus de négociation lent, itératif, qui continue, recommence et recontinue et recommence. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai été un peu schématique. Pendant la guerre froide, il y a eu quand même des choses qui se sont passées. Par exemple, en matière de droits de l'homme, il y a eu l'adoption de deux pactes relatifs aux droits de l'homme, l'un sur les droits politiques, l'autre sur les droits économiques et sociaux, le tout en 1966. Et ça, c'est relativement important parce que ces instruments juridiques vont se sédimenter, se consolider, s'accumuler les uns après les autres et finissent par constituer un véritable filet normatif, le filet de normes qui en sert de plus en plus les membres qui participent à ces enceintes multilatérales.
Il n'y a pas de retour en arrière.
Il faut bien comprendre ça, il n'y a pas de retour en arrière. Hein.
D'accord.
Et je dirais...
Il y a des bons coups de frein, mais il n'y a pas de retour en arrière.
Il y a des stop and go, il y a des phases de stop and go, mais... Il y a une dynamique qui est toujours plus ou moins de manière sous-jacente.
Sur cette piste, on peut quand même constater que il y a des vrais progrès.
C'est pour ça que je défendrais une thèse qui pourra vous paraître un peu optimiste, parce que je l'ai dit, Antoine Madelin vient d'en donner des illustrations très concrètes. On est dans un moment régressif, un moment où le Conseil de sécurité est bloqué, un moment où il y a des tragédies de par le monde sur lesquelles la dite communauté internationale est totalement incapable d'agir. Mais finalement, ce moment régressif, d'où vient-il ? Dans une certaine mesure, on pourrait dire que c'est un peu le revers de la médaille des succès du multilatéralisme. Le multilatéralisme, dans ses filets, a pris de plus en plus de secteurs, de plus en plus de domaines. Aucun n'échappe aujourd'hui à la négociation multilatérale, hein. Que ça soit les télécommunications, l'environnement, la justice pénale internationale, le désarmement, le commerce, ce que vous voulez. Tout est pris dans les filets du multilatéralisme. Et ça... C'est un succès considérable, mais en même temps, c'est un succès qui provoque des conduites de réaction, parce que un certain nombre d'États, voyez le discours de Trump, considèrent que leur souveraineté est atteinte. Et de fait, pris dans les filets d'un nombre de normes de plus en plus important, hein, les États ont une capacité de décision qui, en tout cas, certains peuvent considérer que c'est un bon argument électoral que de mettre sur le dos du multilatéralisme l'idée qu'ils sont en train de perdre des parts de souveraineté. Voyez tous les débats sur la migration, hein, qui sont très significatifs.
Alors, rappelez-nous un peu le contexte là-dessus. C'est les dernières négociations en la matière de la fin de l'année dernière, c'est ça ?
Oui, les migrations. Voilà un thème, les migrations internationales, qui n'était pas du tout à l'agenda du multilatéralisme avant, disons, les années 70, et encore fin des années 70. Et puis, bon, sans que j'ai le temps de revenir dans le détail, à partir des années 90, sous l'impulsion, là encore, de Kofi Annan, des initiatives ont été prises, dialogue de haut niveau, forum mondial pour la migration et le développement, etc. Et là, encore une fois, on le voit bien, la dynamique incrémentale, c'est-à-dire petit pas par petit pas, la dynamique va continuer et va aboutir à un instrument qui, pour l'instant, est une déclaration de principe non contraignante, le fameux pacte sur les migrations qui a été adopté à Marrakech en décembre dernier. Mais même à l'égard d'un texte de cette nature, qui est un texte en fait qui rappelle des grands principes qui existent déjà dans bien des déclarations, même à l'égard de ce texte qui n'est pas juridiquement contraignant, il y a tout un tas de pays, la Hongrie, la Pologne, Israël, les États-Unis, bien entendu, mais aussi d'autres pays qui se sont abstenus, comme l'Australie ou même la Suisse, qui pourtant était à l'origine de ce texte. Tout un tas de pays qui n'ont pas voulu s'engager, parce que s'engager même dans un texte que les experts appellent un texte de droit mou, c'est potentiellement se retrouver piégé par une convention qui pourrait se transformer et devenir de plus en plus dure et devenir un traité en bonne et due forme. Et donc, il préfère rester à l'extérieur de ce type d'initiative.
C'est intéressant ce mécanisme de
toute la subtilité et la complexité du droit à l'échelle internationale. C'est pas un droit ferme, rigide et aussi contraignant.
Je pense que
Oui,
c'est d'autant plus intéressant. C'est d'autant plus intéressant que il existe par ailleurs des normes contraignantes. Donc, on parle par exemple des droits humains qui, de par leur usage, peuvent aussi encadrer la gouvernance internationale des migrations. Donc, du coup, c'est Guillaume parlait de la manière avec laquelle il y a un certain nombre de niveaux de normes qui s'est développé au niveau international, qui est tel qu'aujourd'hui, finalement, on parle de, des migrations au travers de la Méditerranée. La France voudrait vendre des bateaux aux gardes-côtes libyens, pourrait être empêchée de le faire en vertu des droits humains. Parce que elle est partie à des conventions contre la torture qui interdit à la France de participer au fait que les gardes-côtes libyens emmènent les migrants dans des centres où la torture et où les traitements inhumains et dégradants sont pratiqués de manière systématique. Et donc vous avez, par un prisme de droits de l'homme, aujourd'hui une gouvernance mondiale des migrations, entre guillemets. Enfin, c'est pas une gouvernance, mais en tout cas des garde-fous sur la gouvernance mondiale des migrations.
Avec l'enrichissement des textes, finalement, on cadre de plus en plus et de plusieurs côtés, finalement, cette protection des droits humains.
Et d'autant plus que vous avez des organisations non gouvernementales comme celle que représente Antoine qui sont précisément là à interpeller les États en leur disant « Écoutez, vous avez signé tel et tel texte, mais alors votre conduite est irresponsable. Vous signez des textes et vous les violez en même temps. » Donc ça met les États en situation difficile et c'est pour ça que il me semble que un des dynamismes majeurs dans le renouvellement du multilatéralisme, c'est précisément de sortir de ce face-à-face État contre État, et c'est l'introduction de toutes ces forces de la société civile qui à la fois encouragent des dynamismes nouveaux en termes de textes, en termes de domaines à prendre en considération, mais rappellent aux États leurs responsabilités.
Avec ce rôle des ONG, plus que quelques minutes, Antoine Madelin, quelles seraient selon vous les pistes pour améliorer le système onusien, le multilatéralisme, pour aller vers, pas à pas, hein, sans être utopiste, mais vers une plus forte gouvernance mondiale supra-étatique?
Alors, je dirais avant tout de préserver l'espace de la société civile dans le monde. Parce que finalement, Guillaume avait raison, la société civile s'est extrêmement et très largement mobilisée pour s'assurer que les gouvernements soient redevables d'un certain nombre de leurs obligations, notamment en matière de droits humains, mais pas uniquement. Et ça s'est traduit par un retour de bâton de manière assez remarquable et dramatique au niveau de par le monde, puisque aujourd'hui, près de 90 États ont adopté des législations qui empêchent la société civile de travailler librement, d'une manière directe ou indirecte. Dans beaucoup de pays, des personnes qui défendent les droits humains aujourd'hui sont interdites de mener ce travail-là et sont poursuivies, harcelées, détenues, emprisonnées, fouettées, voire même exécutées. On a compté, nous...
90 pays, c'est vrai que c'est...
Près de... En deux ans, près de 300 défenseurs des droits à l'environnement qui ont été assassinés. Ce qui vous dit un petit peu l'échelle des attaques aujourd'hui contre ces acteurs de la société civile. Et ces attaques sont là pour une bonne raison, c'est que ces acteurs-là amènent le changement. Et en effet, ce sont les piliers de changement dans leur propre société. Ils proposent des manières de vivre ensemble. Ils travaillent au développement de normes et au renforcement de leur mise en œuvre sur le terrain. Et donc, ce sont des acteurs incontournables du développement, ainsi que finalement de l'ensemble des objectifs qui sont ceux des Nations Unies. Et les États aujourd'hui au niveau international, puisque l'Organisation des Nations Unies est une organisation interétatique, doivent vraiment mettre au cœur de leur action la protection vaille que vaille et coûte que coûte de ces piliers de changement, de ces acteurs de changement sociétaux que sont les acteurs de la société civile.
D'accord, donc votre proposition, enfin, c'est vraiment de défendre à l'intérieur de ces pays ces acteurs de changement plus que de, on va dire, révolutionner les institutions telles qu'elles existent aujourd'hui, finalement.
Alors, en tout cas, à ce stade, on en est là. on en est là parce que il s'agit avant tout de et finalement l'équilibre complexe du système des Nations Unies est tel que les États développent des normes qu'ils s'appliquent à eux-mêmes. Donc du coup, ils organisent un encadrement de leur propre comportement. Et donc je trouve important que ce soit des États qui participent à l'élaboration de ces normes pour qu'ils puissent les appliquer le mieux possible derrière. Je trouverais que, en tout cas, il y aurait une moindre légitimité de la part de la société civile de le faire directement.
Merci.
On peut en revanche, en tout cas, imaginer qu'on participe aux discussions et qu'on ait des droits de vote dans des sessions intergouvernementales, mais je pense que là, pour le coup, c'est un peu utopie à ce stade.
Alors peut-être une des dernières questions pour vous, Guillaume Devin. Effectivement, vous, quelles seraient un peu vos... Alors, je ne sais pas si on peut parler de propositions, mais au vu de votre regard, comment intégrer effectivement davantage la société civile quand on voit que effectivement le multilatéralisme occupe de plus en plus de place et qu'on a des champs de plus en plus importants, donc on a cette nécessité de prendre en compte la vie des populations. Donc quelles seraient vos pistes de réforme, ou quelles sont les pistes de réforme envisagées aujourd'hui à la fois pour faciliter le fonctionnement du multilatéralisme et intégrer davantage les populations civiles?
Je ne sais pas si j'aurais
des choses. Ça fait beaucoup pour une dernière question.
Je partage entièrement le point de vue d'Antoine. C'est là un défi, à mon avis, majeur. Si la société civile est une dynamique de renouvellement du multilatéralisme, il faut que cette société civile puisse s'exprimer. Et là où elle commence à s'exprimer, c'est à l'intérieur des États. Donc, si les sociétés sont prisonnières par les États, le dynamisme s'essouffle naturellement. Alors, à côté de cette avancée qu'il faut préserver et qu'il faut défendre, il y a certainement des mécanismes institutionnels à revoir. C'est le serpent de mer, une meilleure représentativité probablement du Conseil de sécurité, une forme d'élargissement du Conseil de sécurité, mais comment, on ne sait pas exactement, personne n'est vraiment d'accord, je ne pense pas que ça soit vraiment à l'ordre du jour. Et surtout, peut-être, le fait que la gouvernance économique et sociale, qui est si importante à l'heure de la mondialisation, soit réintégrée à l'intérieur des Nations Unies, et notamment du Conseil économique et social, plutôt que d'être distribuée dans des clubs oligarchiques, le G7 ou le G20, qui ne représentent pas, malgré toutes leurs tentatives, un forum aussi universel que celui des Nations Unies, nous, peuple des Nations Unies, qui comporte les États, mais doit aussi comporter les sociétés.
On vous remercie tous les deux pour votre participation à l'émission. Émission que vous pouvez retrouver sur le site Mode d'emploi. La quatrième dimension revient le 26 avril pour une émission sur les inégalités entre les sexes, les violences faites aux femmes et le mouvement MeToo. Bonne soirée.
Bonne soirée, merci.
Merci à vous.